Chers amis des cellules, bonjour. Je vous propose aujourd'hui de méditer sur le mystère de l'Assomption du point de vue de la Vierge Marie. L'Assomption est un mystère glorieux face auquel nous pouvons avoir une attitude ambiguë. En effet, d'un côté, c'est à la fois l'accomplissement de notre salut, où le Christ, avec sa nature humaine, entre dans le sein du Père et donne à notre nature humaine de pouvoir se tenir définitivement au cœur de la vie divine, mais d'autre part, c'est un arrachement. Voilà que le Christ qui apparaissait aux apôtres ne leur apparaîtra désormais plus. Cet arrachement est certainement vécu d'une façon toute particulière par la Vierge Marie. Nous savons comment au Vendredi Saint, son cœur a été comme traversé par une épée, selon la prophétie que Siméon avait énoncée lorsque Jésus fut présenté au temple. Nous entendions cela en Luc 2, 34 et 35. Je cite, « Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction, et toi-même, une épée te transpercera l'âme. » La Vierge Marie a souffert une sorte de martyr tout particulier au pied de la croix de son Fils. Elle a dû aussi connaître une joie toute particulière en apprenant sa résurrection. Pour saint Ignace de Loyola, c'est une évidence, Jésus ressuscité apparut à sa mère. Je cite depuis les grands exercices de saint Ignace, Jésus ressuscité, dit saint Ignace, apparut premièrement à la Vierge Marie. Quoique l'Écriture n'en fasse pas mention, elle nous le donne assez à entendre en disant qu'il apparut à tant d'autres. Elle suppose que nous avons l'intelligence et que nous ne voulons pas mériter le reproche que le Sauveur fit un jour à ses apôtres. Êtes-vous encore sans intelligence ? Fin de la citation. La Vierge Marie a eu la joie de retrouver son Fils. La liturgie fait de nous même des témoins de ce moment où la Vierge Marie apprend la résurrection. Cet hymne, la plus récente des antiennes mariales, puisqu'elle date du XIVe siècle, dit ceci, rappelons-le. « Reine des cieux, réjouis-toi, car celui que tu as mérité de porter est ressuscité comme il l'avait dit. Prie Dieu pour nous. » La liturgie a voulu faire de nous des messagers de la bonne nouvelle, des anges de la bonne nouvelle auprès de la Vierge Marie. Réjouis-toi, celui que tu as mérité de porter ressuscité, comme il l'avait dit. Nous savons combien il est lourd de porter une mauvaise nouvelle à quelqu'un, et au contraire, combien il peut être exaltant de lui apporter une bonne nouvelle, une nouvelle extraordinaire, une nouvelle réjouissante. Et voilà que dans la liturgie, celui qui chante, le Regina Celli, devient messager de la bonne nouvelle, on pourrait dire avec un grand B et un grand N, auprès même de la Vierge Marie. Eh bien, cette mise en scène autour de la joie de l'annonce de la résurrection jusqu'à la Vierge Marie pourrait nous faire redouter l'annonce de l'Ascension. Voilà que celui que tu as retrouvé il y a à peine 40 jours s'en va déjà, et tu ne le reverras plus. Celui à qui tu as donné chair s'en va et tu ne pourras plus le tenir sur cette terre dans tes bras. Nous saisissons qu'il y aurait là un motif réel de peine. Pourtant, les actes des apôtres nous indiquent de la part de la Vierge Marie et des apôtres une autre attitude. En acte 1,14, nous lisons ceci, nous sommes après l'Ascension, tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus. Nous ne sommes pas face à une scène où nous verrions les apôtres entourer et consoler une Vierge Marie éplorée. C'est d'un seul cœur que tous, avec la Vierge Marie, sont assidus à la prière. L'influence de la Vierge Marie a pu être déterminante pour les apôtres. En effet, elle a pu permettre aux apôtres de dépasser la peine de la séparation. Vous vous souvenez que cette peine de la séparation pour les apôtres était déjà évoquée par l'évangéliste saint Jean. Il s'agissait là de la Passion, on est en Jean 14 au verset 28. « Vous avez entendu que je vous ai dit, dit Jésus, je m'en vais, je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père. Les apôtres étaient appelés à dépasser une possessivité de l'amour qui voudrait conserver la personne simplement pour soi, pour son bien à soi, pour son bien un peu égoïste. Il leur faut découvrir que le bien de Jésus, Verbe de Dieu fait chair et ressuscité, est d'entrer dans la plénitude de l'union avec le Père jusqu'en son humanité, et de découvrir aussi que cette union sera le meilleur, non seulement pour le Verbe qui s'est fait chair, mais pour toute l'humanité. Et cela assurément bouscule leur projet. En acte 1, au verset 6, on voit notamment leur désir de voir Jésus rétablir la royauté en Israël. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël ?» demande-t-il à Jésus. Et Jésus de leur répondre, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa seule autorité, mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit-Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ils avaient leur projet et Jésus leur ouvre un nouveau dessein, devenir des missionnaires dans l'Esprit-Saint. La Vierge Marie a dû voir là l'occasion de faire entrer les apôtres dans ce qu'elle-même avait dû vivre au moment de l'Annonciation. Voilà que l'ange Gabriel lui avait appris que l'Esprit-Saint la prendrait sous son ombre. Ses projets de vie initiaux avec Joseph allaient en être bouleversés, mais elle allait en découvrir aussi le bien pour elle, pour Joseph et pour toute l'humanité. Elle est celle qui permet d'avoir confiance dans le dessein de Dieu avec le don de l'Esprit-Saint. Elle est celle qui a pu initier les apôtres à cette confiance, comme elle peut nous initier nous aussi à cette confiance dans le dessein de Dieu à partir du don de l'Esprit-Saint. Par ailleurs, la Vierge Marie est certainement celle qui a appris le plus vite à découvrir la présence de Jésus sous un mode différent de ce dont on avait eu l'habitude. On voit après la résurrection que le mode de présence de Jésus ne sera pas le même. On ne reviendra pas à une vie identique à celle d'avant la Passion. Lorsque Jésus se fait reconnaître par les disciples d'Emmaüs, il disparaît à leurs yeux lorsque leurs yeux se sont ouverts et qu'ils l'ont reconnu. Pourtant, nous dit-on, il était entré pour rester avec eux. Quelle est donc cette présence qui se poursuit alors même qu'il disparaît de leurs yeux ? Les mots et la bénédiction de Jésus autour de la fraction du pain nous mettent sur la voie, il s'agira de la présence eucharistique. Lorsqu'il rencontrait Marie-Madeleine, Jésus aussi lui disait « Cesse de me tenir, arrête de me toucher ». Marie-Madeleine, à la fois pour se convaincre de la réalité de la résurrection de Jésus, devait lui toucher le bras ou essayer de l'attraper, de le tenir. Et Jésus va mettre une distance par rapport à ça. Il ne se laissera pas approprier d'une certaine manière, il ne se laissera pas retenir égoïstement. « Je vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Dans la finale de saint Matthieu, Jésus le leur dit, et ce sont les derniers mots de cet évangile, « Voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. » La Vierge Marie avait dû apprendre à trouver, à retrouver la présence de Jésus. Souvenons-nous de ce que Jésus lui avait dit quand à 12 ans il avait disparu pendant 3 jours et qu'il fut retrouvé au temple parmi les docteurs. La Vierge Marie, inquiète, éprouvée par ce qui s'était passé, lui dit « Pourquoi nous as-tu fait cela ?» Et Jésus lui avait dit « Pourquoi donc avait-il fallu que vous me cherchiez? Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ?» Et si elle ne comprit pas immédiatement ces paroles, elle les méditait dans son cœur. Tôt, elle a été entraînée à réfléchir et à rechercher où l'on pouvait trouver Jésus lorsqu'il disparaissait de nos yeux. C'est ce qui fait d'elle un secours pour nous tout particulier lorsque nous ne savons plus où trouver Jésus, lorsque nous ne savons plus où chercher. Nous pouvons nous adresser à la Vierge Marie, à celle qui a su trouver le Seigneur, qui a su retrouver le Seigneur, qui a su le chercher. Mais elle a été préparée encore par une parole que Jésus lui a dite du haut de la croix. Vous vous souvenez, c'est au chapitre 19 de l'Évangile selon saint Jean, Jésus lui dit « Voici ton fils ». Ce n'est pas simplement une parole pour qu'elle trouve chez saint Jean, chez le disciple que Jésus aimait, la protection, le logement, le soin que Jésus ne pourra plus concrètement lui donner, c'est aussi dire à la Vierge Marie qu'elle aura à le reconnaître, lui, Jésus, dans ses disciples, qu'elle aura à le trouver dans ses disciples, qu'elle aura à le faire naître dans ses disciples. La Vierge Marie prend au sérieux cette parole, et de fait, elle apprend à voir le visage de son Fils lorsque les disciples de Jésus vivent de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus. Quand il manifeste un amour qui est semblable à celui de Jésus, elle reconnaît la puissance de son Fils en eux. Prenons peut-être une image de la vie concrète pour nous aider à le comprendre. Il nous arrive, en voyant un enfant parler, ou même un adolescent parler, de reconnaître dans son langage des expressions, des formules qui lui viennent tout directement de l'un de ses parents, de l'un de ses proches. C'est la façon dont il rit, c'est la façon dont il fronce les sourcils, c'est la façon dont il est embarrassé dans telle situation, à la même manière que son père ou que sa mère. On reconnaît en fait en lui l'expression de ses parents. Il s'est imprégné de l'expression de ses parents. Eh bien, si cela est possible, si cela est discernable simplement par le biais de l'éducation, combien plus cela est possible et profond lorsque c'est l'Esprit Saint qui agit en nous. Lorsque l'Esprit Saint agit en nous, c'est vraiment la voix de Jésus, les gestes de Jésus, le regard de Jésus qui s'exprime à travers nous. Et cela, la Vierge Marie le perçoit. Et cela, la Vierge Marie nous permet de le développer. Elle entre ainsi dans la béatitude qui avait été promise à Thomas 8 jours après la résurrection. Vous vous souvenez, Thomas qui n'avait pas cru, fait l'expérience de Jésus ressuscité, qui lui dit « Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ceux qui croiront sans avoir vu ». Cette béatitude signifie « heureux ceux qui croiront, non pas en me voyant, en voyant ma chair ressuscitée, mais en voyant les œuvres que j'accomplis par l'Esprit Saint dans le cœur de mes disciples, à travers les mains, les bras, les paroles, les gestes, la présence de mes disciples ». La Vierge Marie est la première qui entre dans cette béatitude parce qu'elle discerne la vie, la présence, l'action de son Fils au cœur même de la vie de ses disciples remplis de l'Esprit Saint, remplis de son propre esprit d'amour. Au terme de notre enseignement, si l'ascension a pu être une épreuve de séparation pour la Vierge Marie, elle est aussi une entrée dans une béatitude nouvelle. La béatitude de ceux qui croient sans avoir vu, sans voir, ou plus exactement, qui entrent dans la béatitude de voir Jésus présent sous ce mode de présence nouveau dans les disciples remplis de l'Esprit Saint. Confions-nous à la prière de la Vierge Marie pour entrer à partir de ce mystère de l'Ascension dans la découverte de ces nouveaux modes de présence, à travers l'Eucharistie, et à travers la vie de ceux qui sont remplis de l'Esprit Saint. Nous-mêmes demandons l'Esprit Saint pour être présence et action de Jésus au cœur de notre monde. Je vous souhaite de bons échanges.